Seigneur, ce matin, une fois de plus, tu t'es tourné vers nous. Car c'est toujours toi le premier qui vient à nous. C'est toi qui te fais connaître. C'est toi qui suscites en notre cœur la réponse que tu espères. Et nous, quelle réponse pouvons-nous t'apporter? Là encore, c'est toi qui nous donnes le souffle dont nous avons besoin. Et quand nous accueillons ta grâce et ta paix, toutes nos réponses sont empreintes de foi, d'amour et d'espérance. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bienvenue à chacune et chacun de vous pour ce deuxième culte de reprise. Après le confinement, c'est une très grande joie de vous retrouver. Vous êtes courageux d'être là avec vos masques. Voilà, nous avons encore des contraintes pour vous accueillir et nous devons les respecter, mais nous espérons qu'elles pourront bientôt s'assouplir. En tous les cas, merci d'être là avec nous. Nous chantons aujourd'hui les cantiques spontanées que vous trouvez dans le petit feuillet écru au début des recueils et les deux cantiques dont les numéros sont affichés sur le tableau. Tout le culte est enregistré et il est publié sur notre site internet. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia.
Si vous le pouvez, nous restons debout pour louer Dieu en écoutant le psaume qui nous est proposé pour ce matin, qui est le psaume 147. Chantez la louange du Seigneur. C'est une bonne chose de chanter pour Dieu. Le Seigneur reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Il compte toutes les étoiles et il appelle chacune par son nom. Notre Seigneur est grand et puissant. Son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur relève les malheureux. Remerciez le Seigneur en chantant. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre et fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne leur nourriture aux troupeaux et aux petits du corbeau qui la réclame. Ce n'est pas la force du cheval qui lui plaît, ni les exploits du coureur, mais les gens qui le respectent, ceux qui comptent sur son amour. Voilà ce qui lui plaise. Chantez la louange du Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre louange en chantant cette fois un autre psaume, le 118. Vous le trouvez à la page 136 et nous chantons les strophes 1, 2 et 6.
Thank you.
Assurés de l'amour de Dieu pour nous, unissons-nous avec humilité dans la prière. Et pour cette prière, je vais vous citer quelques mots de Eti Elisoum, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui était une jeune femme juive mystique et qui a tenu un journal pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est morte à 29 ans à Auschwitz. Dans ces quelques lignes, elle parle de la présence de Dieu en elle. Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre. Mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits. Et alors Dieu est enseveli. Il faut alors que je le remette au jour. Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d'eux. Il en est d'autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains. Je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-mêmes. Seigneur, tu es là. Pourtant, parfois, comme l'exprime Eti, tu nous sembles loin, profondément enfoui. Et nous ne te sentons plus. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à dégager en nous tout ce qui fait obstacle à ta présence. Amen. Nous restons assis pour chanter. Pour recevoir la parole de grâce, je vous invite à vous mettre debout. Oui, nous le savons, et il est bon de le répéter encore et encore. Rien, ni personne, ne pourra jamais faire taire la parole de grâce et d'espérance. Je sais qui vous êtes, dit le Seigneur. Je sais aussi qui vous pouvez devenir si vous acceptez de cheminer avec moi. Je connais la dureté de vos peurs. Je connais la solidité de vos murs. Mais je connais aussi ma tendresse et tout l'amour que j'ai pour vous. Ce matin, à nouveau, je vous ouvre la porte de l'espérance. Je fais ruisseler sur vous ma bénédiction, mon pardon et ma grâce. Allez en paix, mes enfants bien-aimés. Amen. Chantons notre reconnaissance. Restons encore debout, si vous le pouvez, pour entendre ce que Dieu veut pour nous. Seigneur Dieu d'amour, je t'ai donné tous mes doutes et tu m'as donné ta paix. Je t'ai remis toute ma tristesse et tu m'as donné ta joie. Je t'ai remis mes peurs et tu m'as donné ta force. Je t'ai donné tous mes égoïsmes et tu m'as donné ta générosité. Je t'ai donné toute ma pauvreté et tu m'as donné toute ta richesse. Seigneur, ouvre mes mains, ouvre mon cœur, pour qu'à mon tour je n'aie pas peur de donner. Apprends-nous à être généreux avec nos vies, nos talents, nos sourires. Que mon être tout entier te rende grâce, car je sais qu'avec toi, je peux tout et rayonner de ta lumière dans le monde. Amen. Chantons. Avant de nous mettre à l'écoute de l'Évangile pour ce matin, je vous invite à la prière. La prière sincère produit dans le cœur humain une sorte de murmure d'eau vive. Elle invite à un mystérieux échange avec celui qui est la source de la vie véritable. Seigneur, au moment où nous te prions, aide-nous à faire taire en nous le tumulte qui nous prive de ce que tu souhaites nous murmurer à l'oreille et à notre cœur. Fais que ta parole grave en nous un sillon de vie et un souffle d'espérance. Amen. Et c'est David qui va nous guider dans la lecture. Il s'agit du chapitre 4 de l'Évangile de Jean, le chapitre 4 en entier.
Longue lecture. Le bruit se répandit dans la contrée. Jésus fait plus de disciples et baptise davantage que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne et n'en laissait de soin à ses disciples. Lorsque Jésus apprit que ce bruit était parvenu aux oreilles des pharisiens, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallut donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit donc sur la margelle du puits. Il est environ midi. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Jésus s'adresse à elle. « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau. » Ses disciples sont allés en ville pour acheter de quoi manger. La femme s'étonne. « Voyons, tu es juif, comment se fait-il que tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les juifs, en effet, évitent toute relation avec les samaritains. Jésus lui répond, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais fait cette demande, et il t'aurait donné de l'eau de source. Mais Seigneur, répliqua la femme, tu n'as même pas un seau pour puiser, tu sais que le puits est profond, où la prendrais-tu donc ton eau de source? Tu ne vas pas prétendre être plus fort que notre ancêtre Jacob, à qui nous devons ce puits auquel il a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau-ci, reprend Jésus, aura de nouveau soif. mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir constamment ici pour puiser. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas marié, lui répond-elle. Très juste, je n'ai pas marié. Tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là n'est que trop vrai. Maître, rétorque la femme, je vois que tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci, et vous autres, vous prétendez que le seul endroit où on puisse apporter son culte à Dieu, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne-ci ni de Jérusalem pour adorer le Père. De toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, tandis que nous, nous adorons le Dieu que nous connaissons, car le salut de l'humanité viendra du peuple juif. Mais le temps viendra, il est déjà même là, où l'Esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est un être spirituel, et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à sa vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera là, il nous expliquera tout. Le Messie, c'est moi, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaites, les disciples reviennent. Ils sont très étonnés de le voir parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, n'ose lui demander que lui voulais-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Alors la femme abandonna sa cruche, court vers la ville et va de l'un à l'autre en disant « Venez voir, un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Peut-être est-il le Christ ?» Ils sortent de la ville et viennent trouver Jésus. Entre-temps, les disciples insistent, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un aurait apporté à manger ?»« Ce qui me nourrit, leur explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Vous dites en ce moment, « Encore 4 mois et c'est la moisson. » N'est-ce pas ? Eh bien moi, je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que le semeur et moissonneur partagent la même joie. Dans ce cas se vérifie le proverbe, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous avait coûté aucune peine. D'autres avaient travaillé et vous êtes venus recueillir le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus parce que cette femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsque les Samaritains furent venus à Jésus, ils l'invitèrent à rester chez eux et il y passa 2 jours. Après avoir écouté sa parole, ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui, de sorte qu'il disait à la femme « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté que nous croyons en lui. Nous l'avons entendu personnellement et nous avons acquis la certitude que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Après ces 2 jours passés dans la bourgade, Jésus repartit pour la Galilée. Bien qu'il eût lui-même déclaré qu'un prophète ne jouit d'aucune estime dans son propre pays, cette fois, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent bon accueil. Ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête et ils avaient vu tous les miracles qu'il y avait faits. Il repassa par Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Puis à Capernaum, il vit un haut fonctionnaire du roi Hérode. Son fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Serez-vous toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des choses extraordinaires ?» Le fonctionnaire royal le pressait, « Le Seigneur de grâce, viens vite avant que mon petit garçon ne soit mort. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est vivant. » Cet homme crut Jésus sur parole et on l'a pris chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs accoururent à sa rencontre et lui annoncèrent « Mon fils est vivant !» Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent « La fièvre l'a quitté hier vers 1 h de l'après-midi. » Et le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant !» Dès lors, il crut, ainsi que toute sa famille. Tel fut le second miracle que Jésus accomplit à son retour de Judée en Galilée.
Nous restons assis pour chanter le spontané des lectures. Inattendu. Voilà quel pourrait être le titre de cette histoire. Un homme, maître et juif, et une femme, exclue et samaritaine, se rencontrent en Samarie à la mi-journée. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer, et pourtant. À l'époque de Jésus, la Judée et la Samarie, région voisine de Palestine, sont ennemies. Ce conflit date de la rivalité entre les royaumes du sud et du nord, avant l'exil à Babylone. Au retour de l'exil, au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, Néhémie, de la tribu de Juda, le grand reconstructeur de Jérusalem, mène une politique de séparation entre les Juifs revenus au pays, les Judéens, se tenant aux prescriptions religieuses, et les autres, vivant en dehors de Judée, considérés comme moins purs. Les Samaritains font partie de ces derniers et sont accusés de pratiquer une religion mixte, alliant l'adoration de Yahvé, le Dieu d'Israël, et idolâtrie. Pour préserver le vrai culte du Dieu d'Israël, les mariages, par exemple, entre les deux peuples étaient interdits. Par ailleurs, ces peuples n'étaient pas d'accord sur le lieu du culte. Déconsidérés par ceux de Jérusalem, les Samaritains se sont édifiés dans les années 330 avant Jésus-Christ un temple sur le mont Garizim. Le prétexte religieux s'invite alors dans la querelle pour se détester encore plus. L'affaire finira mal pour le mont Garizim, puisque le temple élevé par les Samaritains sera transformé en temple de Zeus, sur la vague d'influence grecque, puis détruit en 128 avant Jésus-Christ. Dès lors, interdiction est donnée aux Samaritains de pratiquer un culte en ce lieu. Jérusalem n'est plus rien pour eux, et ils iront même jusqu'à le souiller en y déposant des ossements durant les fêtes de Pâques. Et cet incident est d'ailleurs reporté par le grand historien Flavius Joseph au 9e siècle après Jésus-Christ. Tant et si bien qu'au temps de Jésus, pour les autorités de Jérusalem, les Samaritains n'appartenaient tout simplement plus au peuple de Dieu. Quelle brouille ! Quelle embrouille ! Dans notre histoire, cela fait plus de 6 siècles que la discorde règne. Cela fait 130 ans que le temple du mont Garizim a été réduit en poussière. Les générations ont passé, mais l'usage a été maintenu de se détester et de ne pas se rencontrer. Les Juifs ne veulent donc rien avoir en commun avec les Samaritains. Tout est dit de cette barrière infranchissable entre ces deux peuples. Tout cela peut nous paraître bien ridicule, vu de si loin. Et pourtant, combien de familles connaissons-nous aujourd'hui brouillées ? Combien de frères et sœurs, de parents et d'enfants sont-ils en froid pour telle ou telle raison ? Ce jour-là, dans notre récit d'évangile, accompagné de ses disciples, Jésus doit traverser la Samarie qui se trouve géographiquement entre la Judée au sud et la Galilée au nord. Il est midi, il est fatigué et Jésus s'accorde une pause près d'un puits. La Samaritaine et lui n'auraient pas encore dû se rencontrer ici, puisque les femmes vont d'habitude chercher l'eau au puits, soit le matin, au lever du soleil, ou le soir à son coucher, quand la température est plus agréable. Mais cette femme se présente au puits à midi pour une bonne raison. L'Évangile nous apprend qu'elle a eu 5 maris et que l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari. L'Évangile ne nous parle pas ici d'immoralité. Mais au temps biblique, la femme étant la propriété de son mari, une épouse avait très peu de droits et beaucoup de devoirs. À tout moment, elle pouvait être répudiée, sans justification, selon le bon vouloir du chef de famille. Le droit de répudiation appartenait au mari seul. Le constat de Jésus, « Tu as eu 5 maris », signifie que la Samaritaine a été répudiée 5 fois, donc abandonnée 5 fois. Et sûrement vient-elle à midi, exclue, cachée, pour ne pas croiser les regards et les paroles malfaisantes. Jésus le sait, et par ce simple constat, lui donne une place. Cette rencontre était, encore une fois, tout bonnement improbable. Mais le Dieu de Jésus-Christ se tient au-dessus de ce qui est humainement possible et logiquement envisageable. Nous qui écoutons la bonne nouvelle, nous le vivons dans notre chair. Le surgissement de la rencontre avec le ressuscité nous permet de témoigner que oui, la puissance de Dieu par son esprit se reçoit au-delà de toute considération humaine. Et le rédacteur de l'évangile de Jean en a témoigné au chapitre précédent dans l'histoire de Nicodème en écrivant « L'esprit souffle où il veut ». Et notre rencontre hors du commun va faire tomber les murs politiques, religieux, sociaux, moraux. Le juif Jésus va bouleverser la vie de cette femme étrangère et par elle, celle de tout un peuple banni. Jésus accomplit ce miracle par la puissance de sa parole. Il est magnifique, ce Jésus-là, dans sa capacité de faire advenir quelqu'un à la vie. On appelle cela la maïeutique. Jésus, comme celui qui a la manière d'une sage-femme, met au monde la belle personne qui se tient devant lui. De la même façon que nous le savons, il l'accomplit pour toutes celles et ceux qui lui donnent leur confiance. Le décor est maintenant planté. Jésus est fatigué, la Samaritaine est rejetée, les disciples se sont absentés. Ils se retrouvent tous les deux à midi autour du puits, mais pas n'importe lequel. Le puits, vous avez retenu, de Jacob. Cette rencontre à la mi-journée, tel un temps à mi-chemin entre deux histoires, elle se déroule autour d'un puits qui va tisser un lien nouveau pour ces deux êtres, pour leurs deux peuples, à travers l'histoire ancestrale du peuple du Dieu d'Israël. Donne-moi à boire. La rencontre débute par un ordre. Jésus demande à boire, a priori il y a urgence. Mais de quelle urgence parle-t-on? De la soif physiologique? De la nécessité de faire tomber les barrières sociales? De la rencontre politique et religieuse de deux peuples séparés? Nous découvrons ici plutôt un autre type d'urgence, l'urgence du don. Tu ne connais pas le don de Dieu. Jésus s'annonce comme celui qui brise toutes les frontières, rencontrant cette femme étrangère et exclue, offrant le don de Dieu en abondance et sans condition. C'est du don spirituel dont parle Jésus. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une samaritaine, es-tu plus grand que Jacob, notre ancêtre? Car dans la symbolique de Jean, c'est bien Jésus qui demande à boire. Mais c'est elle qui a soif de pardon, d'amour et de vérité. Jésus lui parle d'eau vive et elle rit. Elle rit parce qu'il n'a même pas un seau pour puiser. Jésus aussi a soif de vérité, de rencontres authentiques, de dons d'amour et de pardon. Et c'est en cela qu'il interpelle la Samaritaine dans son humanité. Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Seigneur, donne-moi de cette eau et je n'aurai plus jamais soif. Jésus poursuit encore ce bouleversement en supprimant de nouvelles frontières. Où faut-il adorer Dieu, s'interroge la Samaritaine. À Jérusalem, à Garizim? Le seul vrai temple de Dieu est celui de la présence de l'Esprit en nous, explique Jésus. Prier Dieu, c'est accueillir son temple spirituel au plus profond de nos cœurs et dans le quotidien de nos vies. Quelle nouveauté! Et nous retrouvons ici en écho le texte de dimanche dernier des marchands du temple, avec l'annonce de Jésus qu'il est lui-même le temple de Dieu. Notre foi ne se construit que sur la rencontre, celle que nous vivons dans notre cœur et dans notre chair, avec le ressuscité. Et puis vient encore la suite du chapitre 4, très riche, avec le retour des disciples étonnés que Jésus s'abaisse à parler à une femme étrangère, toute l'explication de Jésus sur la nourriture du monde et encore la guérison. Il y aurait encore au moins une, voire deux prédications pour cette fin du chapitre. À la fin de notre passage, nous apprenons que les Samaritains se mettent à croire suite au témoignage de la Samaritaine et à la présence de Jésus avec eux 2 jours encore. Oui, Jésus le Christ est celui qui rencontre, qui détruit les murs, qui donne son pardon, qui console et qui guérit. Il est celui qui met debout et donne vie pour l'éternité à tous ceux qui croient et acceptent de le suivre. Cette rencontre est incroyable et pourtant elle est invitation pour chacun. Nous le croyons. Et comme les Samaritains, à la fin de notre texte, nous proclamons d'un seul cœur, le Sauveur du monde, c'est vraiment lui. Amen.
Thank you.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 56-04 pour cet immense bonheur. Et nous chantons les trois strophes. Il est à la page 912. Cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Nous restons debout pour confesser notre foi. Je vous propose de le faire avec une confession de foi de la Mission Populaire. Dieu est vivant, par lui nous vivons. Nous voulons vivre en lui. Nous le connaissons par Jésus, notre frère et notre Christ. Il nous révèle la face humaine de Dieu. Il est la clé des Écritures et fait surgir en nous la parole. Ainsi, et par les rencontres de la vie quotidienne, l'Esprit élit domicile en nous pour nous enseigner l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les êtres vivants. Nous croyons à cette bonne nouvelle. Dieu guide nos vies conformément à l'image que Jésus nous a donnée de lui. Il est l'unique pouvoir légitime. Il n'existe dans l'univers aucun autre pouvoir qui trouve en soi-même sa légitimité. Nous croyons que la foi au Dieu des Écritures est capable de sauver le monde des catastrophes et les gens du désespoir. Nous affirmons que le malheur n'est pas fatal et que le bonheur n'est pas honteux. Nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu. Tous les chercheurs d'absolu sont nos frères. Dieu accueille les fidèles et les athées pour élargir l'espace de la vérité. Dans notre communauté, croyants et incroyants partagent la nouvelle qui libère, l'évangile qui nourrit. Dieu nous donne l'humanité pour famille. Et ami ou ennemi, chaque être humain garde le droit de manger notre pain. Nous savons que nos portes doivent rester ouvertes à l'étranger et aux pauvres sans-abri. Aucune puissance ne peut les fermer. À l'image de Dieu qui nous accueille, nous voulons, nous aussi, ouvrir nos mains. Amen. Mon seul abri, c'est toi.
Mon seul abri, c'est toi, toujours mon.
L'eau que je vous donnerai, dit le Seigneur, deviendra en vous une source qui donne la vie pour toujours. Oui, Seigneur, grâce te soit rendue pour tous ces dons que jour après jour ta bonté nous accorde. À nous maintenant de t'apporter cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es le béni pour les siècles des siècles. Amen. Et juste avant de passer parmi vous, un grand merci de la part du trésorier et de tout le conseil presbytéral pour la fidélité de vos dons aussi pendant la période du confinement. Voilà, vous avez été fidèles aussi de ce côté-là et cela compte beaucoup pour la vie de notre Église, donc merci encore. Que notre don soit joyeux. Seigneur Dieu, tu es la source d'eau vive. Nous te présentons notre offrande, signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Amen. Merci à Andrea qui est avec nous à l'orgue ce matin. Merci aux conseillers d'accueil, David, Sophie, Antoine et puis tous ceux qui sont présents de toute façon, donnez un coup de main. Alors, la semaine prochaine, le groupe de prière a repris ses rencontres les mercredis à 18h au temple. Toujours les cultes les samedis à 18h sur la radio RCF, des cultes protestants encore diffusés tous les samedis soirs. Et puis dimanche prochain, le culte ici à 10h, qui sera suivi par une rencontre des jeunes de Caté. Donc on leur a demandé de ne pas venir au culte, ça fait un peu bizarre, de n'arriver qu'à 11h30 pour être sûr qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc vous venez bien au culte et puis les jeunes viendront après et on fera un temps de Caté avec eux. L'Assemblée générale du CERA aura lieu le 28 juin après le culte. Et puis le 30 août, ça sera notre culte de fête avec les jeunes qui terminent leur catéchèse et qui vont donc s'engager par le baptême et la confirmation, ça sera le dimanche 30 août à 10h. Et le dimanche suivant, le 6 septembre, notre Assemblée générale à 9h30. Et puis puisqu'ils sont présents, je vais aussi annoncer avec beaucoup de joie, le dimanche d'après, le 13 septembre, la bénédiction de mariage de Fabienne et d'Éric, voilà, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à partager tous ces derniers mois pour préparer ce temps qui aura lieu pendant le culte. Donc ça sera une grande joie pour nous de vous entourer le 13 septembre. Donc vous le voyez, beaucoup de réjouissance pour les mois à venir. Je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te remercions de ce que l'Église est une très grande famille qui rassemble des personnes de tous âges, étroitement liées entre elles, malgré les différences et les distances, malgré les cultures, malgré les confessions. Ces personnes sont toutes liées parce qu'elles se reconnaissent toutes enfants d'un même Père, nées d'un même amour, appelées à une même foi. Que ton esprit de vie souffle sur toute la terre, du nord au sud et d'ouest en est. Qu'il soit un souffle d'unité et de réconciliation, de partage et de communion. Nous te louons avec les cathédrales d'Europe, avec la multiplicité des églises d'Amérique, avec les méditations des chrétiens d'Asie, avec les danses des habitants du Pacifique, avec les chants scandés de l'Afrique. Nous te remercions d'avoir ainsi des frères et sœurs dans le monde entier. Sois avec toutes celles et ceux qui répandent la paix et se battent pour la justice. En ces temps de retour progressif à une vie normale, accompagne toutes celles et ceux qui sont en souffrance, affective, professionnelle, familiale, ecclésiale et spirituelle. Aide-nous à porter haut et fidèlement ton évangile de paix, de tendresse et d'espérance. Et nous te confions maintenant en silence toutes celles et ceux que nous aimons et qui ont besoin de ta force. Et nous rassemblons toutes nos prières en disant d'une même voix et d'un même cœur la prière des chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Et pour recevoir l'envoi et la bénédiction de Dieu, je vous invite à vous lever. Dieu Père, ce matin nous sommes venus, avec notre masque, en nous lavant les mains. Nous sommes venus pour partager ta louange, pour accueillir ton pardon, pour proclamer notre foi, pour écouter ta parole et pour vivre de fraternité. C'est maintenant dehors que tu nous envoies, pour que partout nous fassions rayonner la joie qui nous habite. Oui, dans nos vies, soyons joyeux, continuellement joyeux. Que notre paix rayonne sur tous. Le Seigneur est proche. Chassons l'inquiétude. En toutes circonstances, présentons nos demandes à Dieu d'un cœur confiant et reconnaissant. Car le Sauveur du monde, c'est vraiment lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous bénit et nous garde. Il nous donne sa paix en tout temps et de toute manière. Allons dans la confiance. Dieu marche avec nous. Amen. Et nous chantons le dernier spontané. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde.
nous appelles.